Il est 12h à Kinshasa.
Radio Capi.
Journal Pascal Masirika.
À la une de l'actualité ce midi, la RDC célèbre ce jeudi le 40e anniversaire de la Journée nationale de la liberté de la presse. Thème retenu cette année, comment combattre la désinformation au pays. 8 morts, c'est le bilan provisoire des affrontements d'hier mercredi entre le FRDC et des miliciens de la CODECO dans les villages de Batata et Kilo, secteur de Banyari-Kilo en territoire de Djougou. Notre invité, c'est le président de la Chambre de commerce congolaise, Investissement Congo d'abord, Charles Malouma, parle des avantages que cette structure va apporter aux Congolais sous les plans économiques. Madame, Messieurs, bonjour. Processus de désignation du président de la CENI et des membres de la plénière. Un délai de 48 heures est accordé aux confessions religieuses qui n'ont pas pu dégager un consensus pour vider la question. Cette décision est contenue dans un communiqué signé hier mercredi par le directeur du cabinet de l'Assemblée nationale. Ce communiqué précise que ce délai expire ce vendredi. Pour sa part, le Front commun pour le Congo FCC n'a pas déposé la liste de ses candidats. La plateforme fidèle à l'ancien président Joseph Kabila dit attendre que les confessions religieuses choisissent eux-mêmes un candidat président de la CENI de manière consensuelle, un candidat qui soit apolitique. Ainsi que vous le savez, le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé le 15 juillet dernier un accord au titre de la facilité élargie de crédit de plus d'un milliard de dollars américains en faveur de la RDC. Quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement congolais pour assurer la bonne gestion de cet argent? Voici la réponse du ministre des Finances lors d'une conférence de presse conjointe organisée hier mercredi à Kinshasa avec son collègue de la communication et des médias dont l'information a été diffusée sur la RTNC. On écoute Nicolas Kazadi dans cet extrait choisi par Alain Rungmouchige.
Je crois que vous voyez vous-même dans le cadre de la lutte contre la corruption comment les efforts de contrôle sont renforcés à tous les niveaux. Vous voyez vous-même l'émergence de l'IGF, le travail que l'IGF accomplit. Vous voyez tous les corps de contrôle qui se mettent en mouvement, même la justice. Même si tout n'est pas parfait, il y a des choses qui peuvent être mieux faites. Mais globalement, nous sommes en train de progresser très vite sur l'aspect contrôle. C'est parce que nous nous appliquons à nous-mêmes, en tant que gouvernants, cette exigence de discipline. Et vous voyez vous-même les conséquences. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, on doit faire attention. Il n'y a plus d'impunité, chacun doit faire attention. Mais ça va au-delà. Le président Tshisekedi a accordé beaucoup d'importance aux libertés individuelles. Elles se sont améliorées depuis que nous sommes aux affaires, grâce à l'engagement qu'il a pris et à l'action qu'il a menée depuis janvier 2019. Ces libertés individuelles, c'est aussi le droit de parler, le droit de s'informer, le droit d'agir. Et vous en êtes, vous en faites partie. Je vois vos tweets qui sont parfois très provocateurs, qui sont parfois très durs. Mais c'est ça la démocratie et c'est tout ça qui éveille les consciences. Donc, être exigeant, d'abord chacun, envers lui-même et envers les gouvernants.
La RDC célèbre aujourd'hui le 40e anniversaire de la Journée nationale de la liberté de la presse. Thème retenu cette année, comment combattre la désinformation. Cette activité est organisée par l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo et le ministère de la communication et des médias. À 4 interventions sont prévues aujourd'hui, notamment celle du procureur général de la République, Sylvain Kalula, parlera de la désinformation. Un délit, tandis que l'inspecteur général des finances Jules Alinguété parlera quant à lui de la certification des informations de l'IGF. D'autres détails sur cette journée avec vous, Célestine Massoudi.
Comment combattre la désinformation dans un contexte de rivalité? Ce sera le troisième sujet qu'exploitera le professeur Jean-Chrétien Ekambo. Le professeur Lino Pungi va clôturer la série des interventions avec le sujet « Comment lutter contre la désinformation à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication ?» En République démocratique du Congo, la Journée nationale de la liberté de la presse a été instituée le 22 juillet 1981. La désinformation, comprise comme les fausses nouvelles ou fake news, prend de plus en plus de l'ampleur dans la sphère médiatique. médiatique congolais. Des organisations de régulation de la presse et des ONG internationales accompagnent les journalistes congolais dans la lutte contre ces fléaux. Du 21 au 22 juillet dernier, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, avait aussi organisé un forum sur les fake news à l'intention d'une trentaine de journalistes, organisations des professionnels des médias et les enseignants des universités en sciences de l'information et de la communication.
Autre nouvelle sur Radio Okapi en Ituri, des affrontements se déroulent depuis hier mercredi soir entre des miliciens de la CODECO et les FARDC au village de Batata et Kilo, en secteur de Banyali Kilo, dans les territoires de Djougou. Le bilan provisoire avancé par les FARDC et des sources sécuritaires fait état de 8 morts, dont 7 assaillants. Le porte-parole des FARDC en Ituri indique que l'ennemi qui tentait de se réorganiser dans la zone a été mise en déroute. Le récit d'Isaac Moyopé.
C'est vers 17h que l'armée a lancé une offensive contre des miliciens de la CODECO qui s'étaient regroupés dans la région. Depuis environ un mois, leur présence est signalée sur les tronçons Iga Barrière jusqu'à Mungwalu, où ils ont érigé une dizaine de barrières pour la collecte des fonds. Un camion était obligé de débourser 20 000 francs congolais, 10 000 pour une voiture, 5 000 pour les taximens moto. Plusieurs usagers des routes étaient également victimes des pillages de ces inciviques qui faisaient payer même des taxes dans certains marchés. C'est pour mettre fin à ces exactions que les FARDC ont été déployés dans cette entité pour traquer ces hors-la-loi. Au cours des combats hier entre les deux parties, les forces loyalistes ont réussi à neutraliser 7 miliciens et récupérer des armes. Selon les porte-parole des FARDC en Ituri, plusieurs autres miliciens ont été blessés pendant les combats. Du côté de l'armée, il y a 1 mort et 2 blessés, précise le lieutenant Gilles Ngongo. Ces derniers demandent à la population de signaler tout mouvement de ces malfrats qui seraient à débandade dans la région. Pendant ce temps, les opérations militaires se poursuivent pour démanteler ces groupes armés. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, des cas de pillage et de viol des femmes à Kafunzi préoccupent ce jour-ci les voyageurs et les habitants de la zone située entre Nyabiondo, un territoire de Masisi, et Kachebere, dans celui de Walikale. Le chef d'un groupement de Luberiki attribue ces exactions aux miliciens d'un groupe armé appelé CLS, réfractaire à la démobilisation. Il plaide pour le renforcement des FARDC à Kachebere et à Nyabiondo afin de mettre un terme à ces exactions. Le Mwami Alexandre Bamungo a été joint par Gabriel Wamenya.
L'entité Luberique, il n'y a pas beaucoup de soucis parce que la situation sécuritaire reste normale, excepté la situation qui prévaut entre Kachaanja et Kachebere. Avant d'arriver à Kachebere, vous traversez une localité qu'on appelle Kafunzi. Cette localité était habitée avant, mais suite à l'insécurité, la population qui y habitait a dû se réfugier à Nyabiondo pour les uns et les autres à Kaanja. Ça a devenu un lieu de prédilection des groupes armés. Lesquels groupes est constitué des éléments réfracteurs de l'APCLS qui pillent quotidiennement les passants, ceux qui viennent de Walikale et tous ceux qui viennent de Goma. C'est à 3 km de Kachebere.
Et le dernier pillage date de quand?
Le dernier pillage date d'avant-hier. Bon, aux autorités, j'ai toujours demandé les militaires basés à Kachebere aller patrouiller jusqu'à Kafunzi et au-delà de Kafunzi. C'est connu de tout ce que les groupes armés sont en train de violer sur cet axe-là.
Contactez à ces sujets les autorités compétentes appellent ces miliciens à adhérer au processus de démobilisation en cours avant qu'il ne soit trop tard. Nord Kivu, encore plusieurs familles des agriculteurs du village de Mamboumé dans le secteur de Bapéré ont abandonné leurs habitations à cause des exactions des miliciens de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo. Selon la société civile locale, depuis le début de la semaine, ces miliciens demandent la carte des lecteurs à tout habitant et exige au moins 10 dollars américains à celui qui n'en a pas. Le président de la société civile locale appelle les autorités à traquer au plus vite ces fauteurs de troubles. Mumbere a été joint par Grassa Mzati.
À part les tracasseries antérieures parmi lesquelles le recouvrement des jetons du Salongo, ils ont commencé à demander des cartes de lecteurs à quiconque ils rencontrent dans les chemins et ils ont commencé à Mamboumé, ils sont allés à Karibo, jusque même à Teoule. Ils exigent au moins 10 dollars à tout le monde qui n'a pas la carte de lecteur. Il y a 2 garçons qui en ont été victimes et un infirmier et d'autres personnes à Kalibo. Cette situation a fait que plusieurs familles se déplacent de Mamboume pour Ndiapanda et ailleurs, craignant pour leur sécurité. Et la situation là peut avoir comme conséquence une fin parce que aujourd'hui nous sommes à la période de culture des padis. C'est l'unique saison pour l'année et quand la population devra perdre cette saison-là, il y a des répercussions qui vont se faire voir sur tout l'axe Butembo-Mangurejipa. Et nous appellerons les autorités de s'y impliquer.
Le chef de secteur de Bapéré, Kombi Nepanepa, affirme que les services de sécurité ont pris les dispositions pour faire face à la situation. Autre nouvelle sur Radio Okapi au Nord Ubangi, l'UNICEF a lancé hier mercredi une enquête sur l'état nutritionnel et le taux de scolarisation des enfants de la province avant la descente dans les zones de santé de Mobimbongo et Businga. Les enquêteurs ont suivi une formation de 48 heures à Gbadolité. Objectif visé, mettre sur pied une banque de données qui permettra la réalisation des projets multisectoriels en faveur des enfants. L'enquête est financé par l'UNICEF et exécuté en collaboration avec la division la division provinciale du plan du Nord Ubangi. Le point de la situation avec Paul Richard Malengela.
Les 20 enquêteurs déployés ce jeudi à Mobimbongo et à Businga dans le Nord Ubangi vont chacun collecter des statuts nutritionnels des enfants de 0 à 59 mois, mais aussi des enfants en âge de scolarité jusqu'à l'âge de 11 ans. Ces données précieuses vont aider l'UNICEF et ses partenaires à planifier des actions multisectorielles pour les enfants de la province, notamment en vue de répondre de façon holistique aux besoins de leur cycle de vie et à la réhabilitation de leurs multiples droits, comme l'a expliqué Albert Mbayo, un administrateur de l'UNICEF et facilitateur de la atelier.
À l'issue de ces enquêtes, nous aurons une lisibilité claire sur la situation de l'enfant dans ces zones. Les résultats vont permettre à l'UNICEF de redresser des interventions qui répondent au mieux aux besoins de l'enfant dans cette zone.
Pour le ministre provincial du plan Nord Ubangi qui a lancé les activités, les résultats de cette enquête permettront l'appréciation objective des interventions qui seront menées à l'avenir. Charles Doza.
Les enquêtes seront réalisées dans ces zones de santé pour permettre d'apprécier les impacts des interventions de façon objective.
Notons en fait que cette enquête de 5 jours se déroule aussi simultanément dans la province du Sud Ubangi, précisément dans les zones de santé de Gemena, Zongo et Libenge. Bandaka pour Chama.
L'actualité, c'est également la résurgence de l'épidémie de choléra en Mbujimayi. 4 cas suspects viennent d'être identifiés dans 2 zones de santé de la ville. 2 cas proviennent de Chitenge et les autres de la province voisine de Lomami et résident dans la zone de santé de Bonzola. Les malades sont soignés à l'hôpital général de Lamouya. Parlant des causes, le chef de division de la santé lit ces cas à la consommation de l'eau souillée de la rivière Kanchi. Docteur Bonheur Chitekou demande à la population d'observer les règles d'hygiène. Il a été joint par Esther Nalafina.
On a eu 2 cas cette semaine aussi. Les 2 premiers cas venaient de la zone de santé de Chitenge. Les 2 autres ici, c'est la zone de santé de Bonzola, dans l'air de santé d'Ubaï. C'est à côté de la rivière Kanchi. Les 2 là viennent de la Lomami. Toutefois, les TDR étaient positifs. Quand nous avons prélevé les échantillons qui sont déjà partis à l'INRB, nous attendons les résultats de confirmation si c'est positif ou négatif. Il faut dire que cette population qui longe le long de la rivière Mbujimayi, ils ont de l'eau aménagée. On se dit que peut-être ils sont allés prendre l'eau de la rivière au lieu de consommer les sources d'eau qui sont aménagées. Il y a déjà une équipe qui est constituée afin de mener les investigations.
La population doit prendre conscience de l'existence des maladies de mains sales, dont le choléra. Il faut bouillir de l'eau ou traiter de l'eau avant de la consommer. Bien cuire aussi les aliments et les manger chauds. Et se laver aussi les mains chaque fois qu'on quitte les installations sanitaires. Il y a ceux-là qui vendent des nourritures qu'il faut ouvrir et mettre les données présentes dans le sachet.
Santé encore, le même diagnostic que l'INRB pose à Kinshasa pour le coronavirus, nous l'avons également à Bandundu et à Kikwit. Déclaration faite par le chef de division de la santé du Kwilu. Il affirme que la province du Kwilu dispose déjà des machines pour dépister localement cette maladie. Docteur Jean-Pierre Bassaké au micro d'Irène Boma.
À l'hôpital, nous avons déjà les TD, les tests de dépistage rapide. Et dès que c'est positif, on va avec le PCM. Donc, nous avons déjà les machines ici et les cartouches Covid que nous utilisons avec les gènes experts. Donc, le même diagnostic que l'INRB pose à Kinshasa, nous l'avons ici à Bandundu, à Kikwit. Et bientôt, on va mettre à Diofa, à Mosango et à Vanga. Et donc, c'est comme ça que nous n'avions pas assez de cas parce qu'on n'avait pas assez de moyens. Maintenant qu'il y a des moyens, voilà, donc les cas augmentent. Et l'information, c'est que presque un dixième de ceux qui se présentent sont positifs. Alors, donc, ça fait que mieux de se protéger correctement avec le port de masque, la distanciation. Et les gens qui portent le masque sous le menton ou au cou n'ont pas le masque. C'est comme un collier, mais c'est pas un masque. Le masque, ça s'appelle cache-nez, et donc ça cache le nez. Diminuer de moitié les espaces qu'on occupait à 100%, c'est-à-dire garder la distance.
Actualité internationale.
En Éthiopie, le gouvernement appelle sa population à se joindre au combat contre les forces rebelles du Tigré, commencé depuis le mois de novembre de l'année dernière. Depuis la reprise de la région par les rebelles, le conflit déborde sur les deux régions voisines du Tigré. Et pour faire face à la situation, le gouvernement éthiopien procède ces jours-ci à des recrutements de masse. Au Burundi, le comité de lutte contre la propagation du coronavirus a annoncé hier mercredi soir avoir accepté une offre de la Banque mondiale de lui offrir des vaccins, annonce le ministre de la Santé, le docteur Tade Ndikumana. Mais Gitega a annoncé son refus de signer tout engagement pour une prise en charge des effets secondaires éventuels.
L'invité.
Notre invité, c'est le président de la Chambre de commerce en RDC, Investissement Congo d'abord. Claude Malouma parle tout de suite des avantages que cette structure va apporter aux Congolais sous les plans économiques. Il s'entretient avec Alain Irung.
Claude Malouma, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Chambre de commerce congolaise, IVCD, Investissement Congo d'abord. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette structure?
Cette structure, c'est une idée qu'on a eue pour créer notre chambre de commerce parce qu'on a constaté que nos jeunes sont dans le chômage, nos parents, tout le monde. Et en ce moment ici, il n'y a qu'une seule référence, c'est des politiciens, alors que les politiciens ne créent pas d'emploi. Nous, quand on a grandi, on avait une référence. On avait le papa Bemba Saolo Najano, qui avait 26 000 employés. On avait le monsieur Dokolo, qui faisait la fierté des Congolais, Zairo à l'époque, qui avait une banque qui était jusqu'à Abidjan, jusqu'ailleurs, banque de Kinshasa. Nous avons Lusakivana. Nous avions eu des gens comme des Fonti. Nous avons eu des Ventraska. Nous avons eu des Kisombe Kakumu. Je parle du volet commercial. Donc, ça, c'était une fierté zaïroise, une fierté congolaise aujourd'hui. C'était une fierté qui nous faisait donner genre des défis qu'il faut relever. Mais aujourd'hui, depuis un certain temps, depuis une vingtaine d'années, la référence est tout simplement un politicien qui est dans le poste, qui a pris l'argent, qui est bien. Voilà la référence qu'on a. Et nous avons constaté que l'économie congolaise n'est plus aux mains des Congolais. Les Congolais ne contrôlent plus rien. Les Congolais n'est plus ce que nous on a vécu comme leader économique de son propre pays. L'exemple à l'heure, c'est que vous avez vu quand il y a eu les denrées alimentaires, ils ont constaté que les prix normalement des denrées alimentaires, quand on importe, c'était tellement en bas que nos importateurs ont refusé carrément à baisser les prix. Ça nous a révoltés.
Parlons de la question de l'opportunité. Qu'est-ce que la Chambre des commerces congolaise Investissement Congo d'abord vient apporter de nouveau sur l'échiquier économique?
Nous, ce qu'on veut apporter de nouveau, c'est que nous, dans l'échiquier économique, nous avons ratissé large. Nous avons ratissé large. Nous n'exigeons pas 2 500 $. Nous n'exigeons pas 500 $ pour l'adhésion. Nous, l'adhésion est gratuite. Alors, les gens qui viennent chez nous, ce sont des Congolais. Nous cherchons jusqu'aux Congolais lambda. Quand je vous dis lambda, je vous donne un exemple simple. Depuis qu'on a grandi, on a vu des mamas bipépoula qui vendent dans nos artères ici. Ils ne sont jamais tombés en faillite. Mais on néglige ces gens. Et ce qu'on apporte encore de nouveau, on demande, nous, en tant que Congolais, sachant que le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi Tshilombo, nous lui demandons tout simplement de nous donner une banque d'investissement parce que nous n'avons pas de banque. Les banques qui sont ici, les taux d'intérêt sont exagérés. Je vous donne un exemple. Si je veux emprunter 100 000 $, je rembourse 15 000 $ en 8 mois. J'importe un conteneur qui arrive au port en eau profonde à Pointe-Noire ici. Les conteneurs restent 2 mois, 3 mois. Pendant ce temps, moi, je rembourse 15 000 $ à la banque. Et certaines banques opèrent même la discrimination Et quand leur ressortissant de leur pays va chercher pour 100 millions, il rembourse 1000 dollars. Avec cette personne, tu vas faire une concurrence comment? Comme dans d'autres cieux, quand tu empruntes l'argent, on vous donne un temps de 10 ans, 15 ans pour rembourser. Quelqu'un qui prend 100 000 dollars, un opérateur économique, qui rembourse 1000 dollars et il a le temps de créer l'emploi. Et nous regardons nos jeunes licenciés qui sont vendeurs de cartes, qui sont des chômeurs, qui restent à la maison, il n'y a pas d'emploi. Et nous avons constaté que les politiciens ne créent pas l'emploi. Comme partout ailleurs, c'est les hommes d'affaires.
Soyons concrets. Je suis un jeune homme, j'ai une cabine de communication. Je viens adhérer à la Chambre de commerce congolaise. Après, qu'est-ce qui se passe?
Après, vous allez assister, vous allez avoir des formations. Nous avons des gens qui sont capables de former comment gérer leur business. Mais en même temps, quand nous sommes ensemble, en fait, l'objectif aussi est que nous soyons ensemble. Quand nous sommes nombreux, nous avons des documents, nous avons une pression sur le gouvernement et sur le président de la République pour lui faire comprendre que le président de la République doit prendre des décisions pour aider l'économie de son pays. Aujourd'hui, croyez-moi, si nous transformons FPI, Fonds de promotion industrielle, en banque, parce qu'ils auront toujours là-dedans. Moi, je vais pousser plus loin. Moi, je vais forcer, je vais demander, je vais supplier même la diaspora que j'étais à un moment donné, que nous puissions envoyer l'argent des transferts des fonds. Vous savez, les Congolais arrivent à envoyer jusqu'à 9 milliards de dollars en RDC. Nous pouvons emmener cet argent que la banque d'investissement ici soit le seul à remettre l'argent. Donc la banque va se faire beaucoup d'argent. La banque aura assez d'argent pour donner les crédits aux Congolais avec l'échéancier plus long. Il y a un arrêté royal de 1885 qui signifie que nous avons le taux d'intérêt de 3,75% pour un individu. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt aillent jusqu'à 65% pour un individu qui va chercher le prêt. Le décret n'a jamais été abrogé. Et nous avons une loi et notre arrêté royal du 18 mars 1885 qui institue que le Congolais, en tant que citoyen, en tant qu'une institution, entreprise ou quoi, qui va chercher le crédit, a 2,75% l'an. C'est-à-dire, quand tu empruntes 100 dollars, tu rembourses l'intérêt de 2,75 $. Vous imaginez? Mais aujourd'hui, là, comme nous sommes là, il n'y en a pas.
Merci Claude Malouma.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, le président de la Chambre de commerce congolaise, Investissement Congo d'abord. Claude Malouma était interviewé par Alain Rongmouchige. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Élisée Tikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Rongmouchige. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur les différentes plateformes digitales de Radio Okapi. Dans quelques instants, la page des sports.